VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et excellent réveil en votre compagnie Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bienvenue à l'édition du mercredi 22 juillet 2015. À la une ce matin.
Le dépouillement des votes doit se poursuivre aujourd'hui au Burundi. Les résultats de la présidentielle controversée ne sont pas attendus avant jeudi.
Au Mali, 15 djihadistes présumés ont été arrêtés près de la frontière ivoirienne.
Dans le nord-est du Nigeria, deux personnes ont été égorgées à Bourataï, village natal du chef de l'armée nigériane dans l'état de Borno.
Et c'est dans ce contexte que le président nigérian annonce que la nouvelle force régionale chargée de lutter contre Boko Haram sera opérationnelle d'ici la fin du mois.
Et ne manquez pas la page éco et les sports, mais d'abord le journal. Nous ouvrons ce matin sur la présidentielle burundaise. Le dépouillement des votes doit se poursuivre aujourd'hui. Les résultats ne sont pas attendus avant jeudi, mais le vote d'ores et déjà controversé en raison des violences qui l'ont assorti et le boycott de l'opposition. Peu de suspense quant aux résultats, puisqu'on s'attend à la réélection du président sortant, Pierre Nkurunziza, pour un troisième mandat. Le scrutin d'hier s'est déroulé dans le calme, mais sur fond d'inquiétude. La nuit précédente, plusieurs grenades avaient explosé et de nombreux tirs avaient retenu à Bujumbura. Un policier a été tué et un civil, cadre local d'un parti d'opposition selon sa formation, a été retrouvé mort.
Au Mali, la lutte contre le terrorisme s'étend au sud. 15 djihadistes présumés ont été arrêtés par l'armée malienne dans la région de Sikasso, près de la frontière ivoirienne. Parmi les djihadistes arrêtés figure un prédicateur ivoirien. D'après l'officier contacté par l'AFP, il était venu construire une mosquée dans un village malien où il faisait régner sa loi. Sous couvert d'anonymat, il indique qu'un nouveau sanctuaire djihadiste a été détruit. Et par ailleurs, d'après une autre source militaire, un sanctuaire situé près de la périphérie de la localité malienne de Fakola, a également été détruit. Des armes, des explosifs et des motos ont été saisies.
Nouvelle violence dans le nord-est du Nigeria. Deux personnes ont été égorgées lundi à Bourataï, village natal du chef de l'armée nigériane dans l'état de Borno. D'après les habitants cités par l'AFP, des dizaines de combattants de Boko Haram ont investi le village le soir, ouvrant le feu au hasard et forçant les résidents à fuir dans la brousse. Ils auraient égorgé deux hommes avant d'incendier des dizaines d'habitations. Une attaque attribuée à Boko Haram. À noter que le général Tukur Youssouf Bourataï a été nommé chef d'état-major des armées il y a une dizaine de jours par le président Muhammadu Buhari. Par ailleurs, dans la ville voisine de Biou, à 25 km, un kamikaze s'est fait exploser mardi à un barrage militaire, blessant légèrement une milicienne.
La nouvelle force régionale chargée de lutter contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram sera entièrement opérationnelle d'ici la fin du mois. C'est ce qu'a révélé le président nigérian Muhammadu Buhari dans une interview accordée à la Voix de l'Amérique ici à Washington. Les précisions de Michel Joseph.
Le chef de l'État nigérian, qui effectue une visite de 4 jours aux États-Unis, a assuré que la force multinationale sous commandement nigérian pourra bientôt être déployée dans des opérations contre les militants de Boko Haram. En plus du Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin ont fourni des contingents. Les efforts militaires progressent sur le terrain, permettant de tuer des chefs du groupe, a affirmé le président Buhari, qui s'est toutefois refusé d'en prédire la fin. Après ses entretiens lundi à la Maison-Blanche avec le président Barack Obama, le dirigeant nigérian a discuté hier avec le secrétaire d'État américain John Kerry avant des rencontres avec les membres du Congrès et la diaspora nigériane des États-Unis. Sous le régime de Goodluck Jonathan, le Nigeria avait espéré obtenir une aide militaire, y compris des hélicoptères de combat, mais l'administration Obama y était réticente du fait des allégations de violation des droits humains par les forces de sécurité nigérianes.
Bref rappel, au Sénégal, le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré a été ajourné mardi au 7 septembre, au lendemain de son ouverture, l'accusé refusant de se défendre devant une juridiction qu'il récuse. Hissène Habré est poursuivi pour crime contre l'humanité devant un tribunal spécial africain à Dakar.
En Afrique du Sud, des circoncisions pratiquées lors de cérémonies traditionnelles d'initiation des jeunes garçons ont fait 32 morts, Clermont-Angibourg.
Les chiffres ont été publiés par le gouvernement sud-africain. 32 jeunes garçons ont succombé à leur circoncision et plus de 150 autres ont été hospitalisés, alors que la saison des initiations, pratiquée par certaines ethnies sud-africaines, tire à sa fin. Selon le porte-parole du ministère des Affaires traditionnelles, la plupart des décès et des infections sont consécutifs à des circoncisions effectuées sans aucune précaution d'hygiène. Cette année encore, au moins un cas d'amputation du pénis a été rapporté. Le porte-parole a ajouté que d'autres étaient morts des suites de violences, de déshydratation ou de mauvaises conditions d'hygiène. Le plus grand nombre de décès et de blessures est recensé comme chaque année dans le Cap Oriental, province natale de Nelson Mandela, où ces rites de passage sont un élément essentiel de la culture des Xhosa, majoritaire dans la région. La circoncision survient après une retraite dans la brousse de 2 à 4 semaines, où les jeunes gens sont soumis à des épreuves traditionnelles et secrètes, tests de résistance et d'endurance destinés à faire d'eux des hommes. En 2014, une commission d'enquête gouvernementale avait recensé 400 morts entre 2008 et 2013.
La présidence gabonaise a démenti avoir versé une quelconque somme d'argent à Lionel Messi. La visite dans le pays le week-end dernier de la star du football a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux, Nicolas Pinault.
Le communiqué de la présidence gabonaise est très clair. La République gabonaise dément fermement avoir versé, voire promis de verser, une quelconque somme d'argent au footballeur international argentin Lionel Messi. Celui-ci a séjourné au Gabon du 17 au 18 juillet 2015 sur invitation du président Ali Bongo Ondimba, poursuit le texte. On se rappelle que la venue du quadruple Ballon d'Or avait suscité un tollé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Lundi, le site internet de France Football a renchéri dans la polémique, affirmant que la petite virée africaine devrait rapporter autour de 3,5 millions d'euros à la star du football. De nombreux Gabonais s'interrogent sur le coût d'une telle visite dans un pays qui connaît d'importantes difficultés économiques et où plus d'un tiers de la population vit dans la pauvreté malgré la production de pétrole. Bonne action ou coup de com' pour Ali Bongo, se demandaient de nombreux internautes. Sous une photo qui a également fait couler beaucoup d'encre, on y voit le président gabonais au volant d'une Jeep Mercedes décapotable, fendant la foule à Libreville. Lionel Messi à ses côtés sur le siège, passager. L'arrivée du footballeur mal rasé, vêtu d'un short déchiré et les bras recouverts de tatouages, a par ailleurs suscité de nombreuses parodies humoristiques sur Internet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie serait-elle dans le collimateur du groupe État islamique ? La question se pose deux jours après l'attentat attribué aux djihadistes qui a fait au moins 32 morts à Sourouk, ville limitrophe de la Syrie où sévit l'organisation. Conséquence, le gouvernement turc doit discuter aujourd'hui de nouvelles mesures pour sécuriser la frontière avec la Syrie. Nous ne pouvons pas tolérer que des conflits extérieurs s'invitent en Turquie, a déclaré le premier ministre islamo-conservateur Ahmet Davutoğlu, cité par l'AFP.
Et dans la région toujours, Mohsin al-Fadli, le chef présumé du groupe Khorasan, affilié à la mouvance Al-Qaïda en Syrie, a été tué début juillet par une frappe aérienne de la coalition anti-djihadiste conduite par les États-Unis. Sa mort va affaiblir les opérations extérieures en cours d'Al-Qaïda contre les États-Unis et leurs alliés, estime le Pentagone.
Le président Obama a réclamé la libération de 3 Américains détenus en Iran. Il est de Téhéran pour retrouver un quatrième qui serait aussi dans le pays. Chérubin Dorcy nous en dit plus.
Barack Obama a choisi de lancer cet appel une semaine après la signature d'un accord nucléaire avec l'Iran, accord qui, selon ses critiques, aurait dû contenir une clause sur la détention de plusieurs citoyens américains en Iran. Il s'est exprimé lors d'une convention d'anciens combattants à Pittsburgh, en Pennsylvanie.
We are not going to relent until we bring home our Americans who are unjustly detained in Iran.
Monsieur Obama appelle à la libération immédiate du journaliste Jason Rezaian du Washington Post, de l'ancien sergent des Marines Amir Ekmati et du pasteur Saed Abedini. On est sans nouvelles de Robert Levenston et Barack Obama veut l'aide de l'Iran pour qu'il puisse rejoindre sa famille aux États-Unis. Des proches des 4 détenus ont critiqué le président américain pour n'avoir pas fait de leur libération une condition de la signature de l'accord nucléaire avec l'Iran. Plusieurs dirigeants républicains ont émis la même opinion. Ce à quoi le secrétaire d'État John Kerry répond.
Comme nous l'avons dit, nous avions choisi un certain nombre de problèmes entre l'Iran et la communauté internationale ou entre les États-Unis et l'Iran. Nous aurions négocié pendant 10 ans et ça n'aurait abouti à aucun résultat. Et nous ne pouvions pas attendre aussi longtemps à cause de la question nucléaire et l'évolution de pourparlers.
John Kerry, dans un entretien avec le service persan de la Voix de l'Amérique, le sort des Américains détenus en Iran fera probablement partie du débat qu'auront les membres du Congrès alors qu'ils examinent l'accord durant les 60 prochains jours.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Camille Grosdidier.
Le magazine francophone Forbes Afrique organisait ce mardi à Brazzaville la 4e édition de son forum économique annuel. Thème de la rencontre, la révolution numérique sur le continent. Les participants ont procédé à un état des lieux et des perspectives de l'univers digital africain. Ils se sont dit convaincus de l'importance de l'apport des technologies de l'information et de la communication dans le développement économique et social des nations. La production de la Gécamine a augmenté de 600 tonnes en l'espace de 6 mois en République démocratique du Congo. C'est ce que signale Radio Okapi. Cette évolution permet à la direction de cette entreprise minière de payer ses cadres et agents sur fonds propres au lieu d'emprunter, ajoute la radio. Le président sénégalais Macky Sall sera à Milan fin de semaine pour assister à un forum dans le cadre de la participation du Sénégal à l'exposition universelle Milano 2015. Le forum s'intègre dans le cadre de la semaine économique commerciale, culturelle et touristique du Sénégal, prévue du 22 au 28 juillet. Et puis la banque des BRICS, dotée d'un capital chiffré à environ 100 milliards de dollars, a lancé ses opérations mardi à Shanghai, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. Elle servira notamment à financer des travaux d'infrastructure et des projets de développement durable dès 2016. Cette nouvelle banque de développement a été fondée par les pays membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Camille. On enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Morgane.
Et Didier Drogba ira-t-il à Montréal ?
L'attaquant ivoirien serait le choix parfait pour aider l'Impact de Montréal à poursuivre son ascension dans le championnat nord-américain de football, la MLS. C'est ce qu'a jugé mardi son ex-entraîneur à Chelsea, José Mourinho. Le buteur ivoirien de 37 ans avait annoncé fin mai, après avoir aidé les Blues à remporter la Premier League, qu'il quitterait Chelsea à la fin de la saison et qu'il entendait jouer encore un an au moins dans un autre club avant de prendre sa retraite. Alors que le club anglais a établi son camp d'été à Montréal depuis mercredi dernier, les rumeurs vont bon train sur l'éventuel recrutement de Drogba par le club local, l'Impact, qui évolue en MLS depuis 2011.
Football, Michel Platini se lance-t-il dans la course à la présidence de la FIFA ?
Le Français, numéro 10 de légende et grand patron du football européen, dira rapidement s'il est candidat à l'élection du 26 février. À 60 ans, le président de l'UEFA depuis 2007 et à ce titre vice-président de la FIFA connaît à la fois le terrain pour avoir évolué au plus haut niveau et les coulisses du football. Michel Platini, ancien conseiller de Sepp Blatter en 98, c'est donc un familier de la maison FIFA.
La Grèce n'a plus d'entraîneur.
L'Uruguayen Sergio Markarian a annoncé mardi sa démission du poste de sélectionneur de la Grèce après 5 mois seulement à la tête de l'équipe. « Je suis venu en Grèce pour aider l'équipe nationale à un moment critique. Je demande pardon aux supporters grecs parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes », a déclaré Sergio Markarian. À 70 ans, l'ancien entraîneur du Pérou et du Paraguay avait signé un contrat d'un an avec la Fédération grecque pour un montant estimé de 350 000 euros.
Surprise attendue à Manchester United.
Oui, le manager néerlandais du club mancunien, Louis van Gaal, a évoqué depuis San José aux États-Unis, où son équipe est en tournée, l'arrivée d'un attaquant surprise avant le début de la saison. Le technicien Batav a dans le même temps démenti les pistes évoquées dans la presse qui envoyaient l'attaquant allemand Thomas Müller ou le Barcelonais Pedros Rodriguez vers MU. Quatrième du dernier championnat d'Angleterre, Manchester a déjà recruté cet été le champion du monde allemand Bastian Schweinsteiger, le Français Morgan Schneiderlin, l'Italien Matteo Darmian et le Néerlandais Memphis Depay.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Kiriek, en votre compagnie, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission. Première escale ce matin, le Burundi. L'élection présidentielle s'est déroulée sur fond de violence dans le quartier de Nyakabiga à Bujumbura. Dans les 24 heures précédant le vote, 3 personnes dont un policier ont été tuées dans la capitale. Le président sortant, Pierre Nkurunziza, qui brigue un troisième mandat, en dépit des protestations de l'opposition, devrait sortir vainqueur de ce vote. L'opposition, grande absente de ce scrutin, parle d'un simulacre d'élection, dénonçant aussi bien les communales que les présidentielles et les législatives. C'est dans ce contexte que la communauté internationale appelle toujours les protagonistes burundais à privilégier la voie des négociations. Et le parti présidentiel affirme que le dialogue demeure possible, même après le vote. Le reportage de Christophe Kourounziza depuis Bujumbura.
Après la sortie du parti présidentiel et du gouvernement du dialogue initié par le médiateur Yoweri Museveni sur demande de la communauté est-africaine et de l'Union africaine la semaine dernière, le doute s'était insinué dans tous les cœurs des Burundais et pris de paix et de réconciliation. Si la majorité de la population burundaise interrogée après la sortie des urnes indiquait qu'elle votait une grande partie pour le président Pierre Nkurunziza, candidat à sa propre succession contestée, d'autres votants affirmaient que le vote était sans intérêt majeur. Pour le président Gérard Ndouaïo du parti Union pour le Progrès National reconnu par le ministre de l'Intérieur, il estime qu'il a des chances pour remporter l'élection.
Il y a toujours de l'espoir parce que la vérité c'est toujours dans les urnes. Donc il n'y a pas de pronostic avant les urnes, avant le verdict des urnes. Nous attendons le verdict des urnes patiemment. Question de score, je pense qu'il faut replacer la problématique du score dans le contexte de l'application de l'accord d'Arusha. C'est un score honorable à partir du moment où il est représentatif. Donc il s'agit du profilage du système politique consensuel, inclusif, qui doit prendre en compte les desiderata ou les suffrages des minorités politiques et des majorités politiques. Il ne s'agit pas du majoritarisme, il s'agit plutôt d'un partage du pouvoir.
Mais bien de Burundais interrogés pourquoi ils ne se sont pas présentés aux urnes, ils affirment que cette élection présidentielle, tout comme les élections communales et législatives du mois de juin, sont sans aucun intérêt pour le peuple burundais. L'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies ont toujours indiqué que ces élections burundaises ne seront pas reconnues par la communauté internationale aussi longtemps qu'elles ne seront pas inclusives et transparentes. Christophe Nkurunziza pour la Voix de l'Amérique, Bujumbura.
La société civile burundaise a qualifié le scrutin présidentiel d'hier de mascarade électorale. Dans un communiqué rendu public par les organisations membres de la campagne Halte au troisième mandat, on appelle à toutes les forces vives de la nation à se mettre ensemble sans tarder pour trouver une alternative démocratique. Suivez Maître Vital Chimirimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, joint au téléphone par Eric Manirakiza. Il s'exprime au nom des organisations de la société civile opposées au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
Après l'organisation du scrutin contesté qui fait suite à une protestation pacifique contre le troisième mandat, les organisations de la société civile s'indignent de constater que Pierre Nkurunziza s'est entêté pour briguer le troisième mandat et déclare que nous ne reconnaîtrons plus M. Pierre Nkurunziza comme président du Burundi, passé la date du 26 août. date de la fin de son deuxième mandat constitutionnel. Ainsi, les organisations de la société civile appellent toutes les forces vives de la nation à se mettre ensemble sans tarder pour trouver une alternative démocratique à la crise actuelle causée par ce projet de briguer le troisième mandat.
Est-ce que vous avez les moyens de le faire partir, même si ces élections ont eu lieu?
Et nous allons conjuguer les efforts avec d'autres forces, les forces nationales et internationales. Et nous avons vu qu'il y a une mobilisation planétaire qui a constaté que Nkurunziza n'était pas un président pour tous les Burundais. Il est entre-temps devenu chef d'une milice, ce qui interpelle la conjugaison des efforts au niveau national et international pour arrêter cet état de fait.
Maître Vital Chimirimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur l'après-présidentielle au Burundi. Deux jours après ce scrutin controversé, quelles perspectives après le passage en force de Pierre Nkurunziza? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Nous partons maintenant dans le nord du Mali. Les militaires maliens sont tombés dans une embuscade à 70 km de Gao, entre Taaka et Doro. Ils escortaient un convoi de camions civils en provenance de Bamako lors de l'attaque. Bilan provisoire, un camion brûlé et un véhicule de l'escorte militaire emporté par les assaillants. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
L'escorte militaire qui convoyait les camions de civils en provenance de Bamako transportant du matériel de la MINUSMA a été surpris par une attaque d'hommes en armes qui circulaient sur des motos entre Doro et Taaka à quelques 70 km de Gao. Le bilan provisoire fait état d'un camion brûlé, un véhicule de l'escorte militaire emporté par les assaillants. Voici le témoignage d'une dame présente sur les lieux du drame que nous avons contactée au téléphone.
70 km de Gao.
Je suis à bord du Carnour Transport. Je vais à Bamako. Nous sommes à 70 km de Gao entre Ntahaka et Doro. Nous venons tout de suite d'arriver sur les lieux du drame. Je compte 8 camions qui se suivent direction Gao et le premier camion qui est en train de brûler. Les militaires que nous avons demandé sur place nous ont dit que c'est une roquette qui a été lancée. Mais un passager du camion nous a dit que lorsque les assaillants ont ouvert le feu, les soldats du véhicule militaire en tête du convoi ont abandonné leur véhicule. Et les assaillants qui étaient sur deux motos se sont approchés du camion. Ils ont tiré sur le réservoir et ensuite ont mis le feu. Le camion est en train de brûler actuellement sous nos yeux. Les militaires venus en renfort ont refusé que nous continuions notre chemin sous prétexte que des mines sont placées sur la route. Tous les cars venant de Gao sont bloqués. Nous sommes là depuis 7h et au moment où je vous parle, il est 13h. Nous sommes toujours bloqués entre Ntahaka et Doro. Bon des morts, nous n'allons pas vie. Mais le chauffeur du camion brûlé et ses apprentis ne sont pas retrouvés encore. Le véhicule militaire de l'escorte a été emporté par les assaillants. Nous allons continuer sur Bamako malgré qu'on soit inquiet.
Il faut le rappeler, c'est sur le même tronçon que des camions civils transportant du matériel de la MINUSMA ont été brûlés et leurs chauffeurs froidement abattus en avril dernier. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
L'armée congolaise affirme avoir repris la vallée de Moutara aux rebelles ougandais des ADF. Le porte-parole de l'offensive de l'armée congolaise contre les rebelles ougandais a indiqué hier à VO Afrique que des opérations de ratissage étaient en cours dans cette vallée du Nord Kivu, près de Beni. Eddy Sango, adjoint de la zone des opérations à Moutara, le lieutenant Mac Azukai.
Pour le moment, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent la vallée de Moutara. Mais il y a un travail de fouille et de ratissage qui s'est fait. Au moment où je vous parle, la Syrie est en train de pilonner une position que nous avons vue. Donc là, on est en train de nettoyer le terrain. Nous avions localisé et identifié une position défensive, une position à partir de laquelle les gens lancer des expéditions sur le village environnant. Et depuis le dimanche, nous sommes en train de détruire ce campement. Nous contrôlons l'espace aérien et l'espace terrestre. Mais maintenant, là, il y a une incursion qui vient du sud du parc. Nous sommes obligés de contenir. Depuis le temps, on est en train d'installer les armes d'appui pour pilonner, pour permettre à nos combattants d'avancer un peu.
Et quelle est la situation de la population civile dans Tara?
Le théâtre d'opération est trop loin des agglomérations. Nous sommes à peu près à 3 heures de marche dans l'ouest du village de Isha, Maïmoya et Nguti. Je pense que vous attendez le coup de balle. Je suis à côté de mes militaires.
Et que représente Moutara par rapport aux positions des ADF?
Le campement qu'on a localisé était en quelque sorte un quartier général, parce qu'il y a une forte résistance qu'on a combattue depuis deux jours. C'était un peu ce qu'on peut appeler le bastion de ce mouvement. Voilà pourquoi il nous fait un peu du temps et puis un travail minutieux pour déloger ce genre-là.
Quel est le bilan des affrontements maintenant là?
Pour le moment, je ne peux que vous donner un bilan provisoire. Du côté des forces armées de la République démocratique du Congo, on a comptabilisé 3 militaires qui sont tombés sur le champ d'honneur. Il y a eu 6 blessés. Qui sont déjà évacués. Du côté de ADF, nous avons 10 morts. On a récupéré 4 armes AKA et une arme RPG. Et puis quelques produits cosmétiques qu'ils avaient volés il y a quelques temps.
Le lieutenant Mac Azoukay, le porte-parole de l'opération Sokola 1, joint par Eddy Sango.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Le président kényan Uhuru Kenyatta estime que la sécurité et le commerce seront au centre de ses discussions avec Barack Obama lorsque son homologue américain visitera son pays cette semaine. Dans une allocution à la Nation, M. Kenyatta a simultanément évité les questions plus controversées, dont l'inculpation de son vice-président par la Cour pénale internationale et les tollés sur les droits des homosexuels. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Intervenant de son palais à Nairobi, le président kényan a dit que la sécurité et les investissements vont de pair et qu'il abordera ces sujets avec M. Obama. Le chef de l'exécutif américain vient co-présider au Kenya le sommet du GES, Global Entrepreneurship Summit, avec M. Kenyatta, tout en ayant des réunions bilatérales. Les relations entre Nairobi et Washington étaient plutôt tendues en raison des charges de la CPI contre le président Kenyatta et son numéro 2, William Ruto, pour leur rôle présumé dans la violence qui a suivi l'élection de 2007. Pour Uhuru Kenyatta, la visite de M. Obama symbolise la solidité des liens entre les États-Unis et le Kenya.
All I can say is that those who have doubted the strength.
Tout ce que je peux dire est que ceux qui avaient douté de la solidité du partenariat et de l'amitié entre les deux pays ou notre engagement doivent maintenant réexaminer leur position. La CPI a renoncé à ses chefs d'accusation contre le président Kenyatta, mais les a maintenus pour M. Ruto et un autre prévenu. Mais le président kényan souligne que son vice-président ne sera pas exclu des rencontres avec Barack Obama. À moins que je me trompe, le vice-président fait partie de ce gouvernement. Donc, nous nous réunirons tous et ferons ce que nous devons faire. Des politiciens kényans ont pour leur part exprimé des inquiétudes quant à une tentative du président Obama de soulever la question des homosexuels, surtout après la décision de la Cour suprême des États-Unis qualifiant de légal le mariage gay. Pour M. Kenyatta, ces soucis sont superflus puisque la question n'est pas inscrite à l'ordre du jour et il a insisté sur l'importance du sommet du GES qui, dit-il, aide à promouvoir la réputation du Kenya en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. C'est la première fois que l'Afrique subsaharienne a pris ce sommet et je crois fermement qu'en choisissant le Kenya, le GES reconnaît les progrès et le potentiel de notre nation, ainsi que son leadership sur le continent. Selon M. Kenyatta, son pays pourrait bénéficier d'un accroissement des investissements dans les infrastructures, la santé et la manufacture. Le président Obama doit participer au sommet pendant le week-end et prononcer une allocution avant de se rendre en Éthiopie.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde est assurée par Anne Albertson, Morgane Guiriac à la présentation. Et je vous souhaite une excellente journée à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.